Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission évidemment sur le cinéma, une émission qui va durer une demi-heure et nous allons parler de quatre films. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, vous en avez un chacun de films.
Oui, je vais vous parler d'un film espagnol, hein, Les Repentis d'Isar Bolaint, sur les événements qui ont eu lieu il y a 11 ans par l'ETA.
Et puis tu as Guillaume, donc c'est un film français qui est dans de nombreuses salles.
Oui, moi je remonte plus loin que le théâtre, on remonte à l'entre-deux-guerres et c'est pour Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac.
Clovis Cornillac que nous avons pu rencontrer, Guillaume, mais malheureusement donc, je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrement lors de l'interview. Donc ça restera des souvenirs pour nous, cette belle rencontre avec l'acteur, réalisateur et son actrice, Léa Drucker. Nous parlerons aussi de Mascarade, film de Nicolas Bedos qui était présenté en hors compétition à Cannes, et puis de Riposte féministe, documentaire de Marie Pérennes et de Simon Depardon. Et là, j'avais bien appuyé sur le bouton donc enregistrement de l'enregistreur, ce qui fait que nous allons pouvoir entendre les deux réalisateurs nous parler de ce documentaire, ma foi, fort bien réalisé. Mais nous allons commencer par un homme politique qui est assassiné par l'organisation terroriste en 2000, et 11 ans plus tard, eh bien, l'un des auteurs du crime demande à rencontrer la femme de la victime. C'est Les Repentis.
Ben oui, c'est le film, et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Les 15 premières minutes de Les Repentis, à la structure narrative sèche, presque elliptique, peuvent déconcerter les spectateurs qui n'ont pas en tête les événements historiques relatés. Mais l'élégance de la forme, délestée d'effets tape à l'œil, augure le meilleur. Repentis souffre par une scène choc, l'assassinat du politicien Juan Maria Roregui par les séparatistes basques, membres de l'ETA en 2000. Cet ancien préfet laisse une fille de 19 ans et une femme, Maxabel Laza, dont le film relate une partie de son histoire. 11 ans plus tard, elle reçoit une demande inhabituelle et déstabilisante. L'un des auteurs du crime demande à lui parler dans la prison de Nanclares de la Oca, où il purge sa peine de prison. Malgré son scepticisme et sa douleur, elle accepte de rencontrer le prisonnier, Luis, première étape avant de se confronter avec l'assassin de son mari, Ibon Etxezarreta. Alors tous deux ont par ailleurs rompu le moindre lien avec le parcours terroriste. Pour son 8e long métrage, l'ancienne actrice Isiar Bolaint, aperçue dans le sud de Victor Eris, retrouve Luis Luozar, qu'elle avait précédemment dirigé dans Même la pluie 12 ans auparavant. En ex-terroriste marqué par le remords et la honte, il compose un personnage émouvant, faisant face à Bianca Portillo, magnifique en veuve prête à pardonner l'impardonnable. Alors comédienne remarquée à plusieurs reprises chez Pedro Almodovar, notamment dans Volver, il me semble. Alors tous les autres acteurs sont remarquablement dirigés, habités par une authenticité criante. Cette sensation, qui n'est pas à proprement parler consubstantielle à un style naturaliste, s'explique par les conditions de tournage et surtout le travail monumental organisé en amont par Isiar Bolaint et sa co-scénariste Isa Campo, à l'origine du projet. Elles ont approché la vraie Mike Sabel et sa fille, et elles ont aussi fait des recherches sur les activistes, ces hommes qui ont rejoint donc la lutte armée pour l'indépendance du Pays Basque, s'intéressant plus particulièrement aux dissidents. Ce drame à caractère historique et introspectif, mêlant l'intime et le collectif, tout entier dédié à la libération de la parole, raconte cette rencontre, cette improbable réconciliation entre bourreau et victime, sans que le film n'évoque le syndrome de Stockholm. Le temps est à la paix, au besoin de refermer les plaies et les blessures d'un pays traumatisé par les attentats à répétition d'une organisation révolutionnaire motivée au départ par des idées défendables d'inspiration marxiste-léniniste. Mais entre l'engagement et l'embrigadement, la frontière est mince. Des braves gens peuvent devenir d'impitoyables tueurs au nom des plus belles idées. Les longs dialogues sont articulés comme des exutoires nécessaires prenant la forme de confessions douloureuses et nécessaires. Isiar Bolaint est à deux doigts d'ailleurs de sombrer dans le pathos, mais l'évite de justesse grâce à sa mise en scène glacée et raffinée. le soin apporté au cadrage privilégiant les plans fixes à la sobriété exemplaire et la très belle photographie dominée par des couleurs douces de Javier Aguirre apporte la juste distance émotionnelle de ce beau film dossier, pudique et sérieux, très documenté, sans oublier bien sûr de faire du cinéma. Alors les Repentis épousent des points de vue radicalement opposés sans jamais porter à un jugement moral et ou idéologique. L'ampleur romanesque d'un récit riche en personnages fascinants élève le film au-dessus de sa dimension programmatique et superficielle de la rencontre entre la femme du politicien et Ibonne. Il n'en demeure que, même si cet aspect artificiel peut irriter, l'émotion qui se dégage lors de ces échanges est très intense, serrant la gorge grâce à des plans très travaillés sur les visages et ces dialogues très écrits dont chaque mot semble avoir été soigneusement sous-pesé. La cinéaste refuse aussi le manichéisme en multipliant les interactions entre les personnages, oppositions contradictoires, interrogeant par là le spectateur, hein, sans lui imposer une lecture confortable du prêt-à-penser, si courant dans le cinéma militant. Il est tout aussi compréhensif que les amis et la famille de Max Abel ne puissent pardonner les actes horribles commis par le passé, tout comme les détenus passent pour des traîtres aux yeux de l'ETA, qui finira, rappelons-le, par se dissoudre en 2011. Les Repentis, alors, s'avère une œuvre délicate, apaisée et intelligente, hein, qui déploie une vision du monde universelle, faisant écho d'ailleurs aux attentats de 2015 et je dirais à peu près à tous les attentats qui ont pu avoir lieu depuis une vingtaine d'années.
Oui, et je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai vu ce film, effectivement. Alors, il y a une espèce de mise en scène un peu sèche, mais en même temps, enfin, tout le temps. Alors, ce qui m'a marqué aussi, c'est la donnée climatique, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de la pluie. Et il y a tout le temps, en plus, ce petit côté mélancolique. Alors, tu parlais du pathos qui peut être touché parfois. C'est vrai qu'on y tend, mais jamais on l'atteint. Voilà.
Elle vit tout le temps parce que je pense que c'est cette forme, c'est la mise en scène, hein, qui a un côté, c'est vrai, un peu glacé, comme ça, un petit peu distante des personnages qui empêchent. Il suffirait de pas grand-chose.
Hein. Oui, il suffirait de pas grand-chose d'après les retours que j'ai eus, hein, parce que je n'étais pas tout seul dans cette salle. Et puis à noter aussi, tu en parles, il y a aussi tout le mécanisme effectivement de l'engagement dans le théâtre. On voit très bien, bien ce qui se joue après dans la prison entre les différents militants qui se retrouvent pour la plupart plus de 20 ans en prison. Enfin hein, voilà, c'est pas rien. Et puis on en apprend beaucoup effectivement aussi sur ce mouvement. Oui. Moi, j'étais surpris du nombre d'attentats en fait qu'ils ont commis.
Oui, c'est énorme, c'est impressionnant. On oublie hein, l'histoire, hein, on a l'impression qu'on est plongé là-dedans dans le chaos depuis 15 ans avec les organisations islamistes, mais en fin de compte, ça existe depuis très longtemps, les attentats.
Et en même temps, on se dit que ce n'est pas notre histoire, mais c'est quand même le Pays Basque, et le Pays Basque, eh bien, il est aussi un peu en France, et on en a de toute façon connu des mouvements durant les années 70 et 80. Voilà, donc Les Repentis est en salle depuis le 9 novembre. Suite de la saga initiée par Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, voici Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac avec Léa Drucker et Benoît Poulvorde.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre, couleur de l'incendie.
5 ans après Au revoir là-haut, voici revenir l'œuvre de l'écrivain Pierre Lemaitre sur grand écran dans une adaptation tout aussi ambitieuse. Alors une différence près, hein. Cette fois-ci point d'acteur réalisateur vedette qui va s'emparer tout entier de son sujet, mais un acteur réalisateur bien plus humble, discret et tout aussi capable. Alors aux États-Unis, hein, ce changement de paradigme soulignerait la mainmise d'un studio producteur qui, suite au gros succès du premier opus, voudrait assurer sur un second volet quelque chose de plus sage et d'entièrement contrôlé pour réitérer tout simplement une formule à succès. Mais chez nous, passer d'Albert Dupontel à Clovis Cornillac équivaut à un changement de style qui va se révéler des plus profitables, passant de l'auteur star à l'artisan consciencieux qui est tout aussi méritant. Donc la comparaison est d'autant plus facile qu'elle paraît évidente, tellement elle est inévitable. Les deux sont à la fois réalisateurs de l'adaptation d'un livre de Lemaitre et jouent en plus l'un des personnages secondaires. Encore une fois, l'adaptation en scénario du roman est signée directement par Lemaitre, d'après lui-même, à la différence près que le réalisateur ne met cette fois-ci pas son nez dedans. Encore plus ambitieux que pour le premier volet de sa trilogie informelle, il signe ici rien de moins que sa propre version du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, à travers un récit de vengeance lent mais implacable, faisant passer son héroïne de la richesse à la pauvreté, qui devra batailler pour remonter une par une toutes les marches de la société jusqu'à nouveau atteindre le sommet, ou tout du moins une situation satisfaisante. L'ironie veut que le film soit produit par Sidonie Dumas. Donc l'ombre de l'auteur des Trois Mousquetaires plane donc ici partout, et ce n'est absolument pas pour nous déplaire, tant, faut-il le rappeler, la structure narrative du conte de Monte Cristo est littéralement parfaite.
Je lègue donc à ma fille Madeleine Péricourt la totalité de mes actions dans la banque dont je suis le fondateur.
C'est quand même mon intuition qui a permis à votre banque d'être là aujourd'hui.
Non, Gustave, c'est mon père.
Vous allez épouser Madeleine et devenir président de la banque.
J'ai toujours été votre ami, n'est-ce pas?
J'ai besoin de 300 000 francs.
Vous aider ne va pas être possible, mon oncle.
Moi, je peux vous aider.
Mon journal vous soutient depuis 3 ans.
Dans 3 mois, ils vous mangeront la main.
Faites-moi confiance.
Couleur de l'incendie commence en 1929 pour s'étendre sur plusieurs années. Donc après le décès de Marcel Péricourt, sa fille Madeleine doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais son fils Paul va tenter de commettre l'irréparable et, essayant de mettre fin à ses jours, De Caribe dans Scylla va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Alors face à l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie alors que se multiplient les coups bas. Alors c'est une tâche d'autant plus difficile qu'elle se situe dans une France d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui observe impuissante malgré tous les signaux évidents et alarmants, les premières couleurs du fameux incendie qui va ravager l'Europe et qui vont donner son nom au film. Donc Cornillac avait donc la difficile tâche de succéder au style ampoulé et faussement rococo de Dupontel. Il le balait d'entrée avec un très long et très réussi plan séquence détaillant les coulisses de l'enterrement, celui de Marcel Péricourt, qui fait penser à celui qui ouvre, toute proportion gardée bien sûr, au bûcher des vanités ou celui de Snake Eyes de Brian De Palma, parce qu'il montre lui aussi l'envers d'un événement et ce jusqu'à son point de rupture. Donc Cornillac qui s'initie son 4e film, est devenu au fil du temps un vrai bon réalisateur. Modeste, besogneux, appliqué, ça paie. La comparaison avec De Palma n'est pas innocente, tant il semble s'inspirer du maître. Alors, il arrive plusieurs fois à ne pas rougir de cette influence, un peu pesante bien sûr. Je pense en particulier à une très jolie scène d'opéra où il travaille avec bonheur le point de vue des protagonistes via un usage harmonieux du zoom, ou encore l'arrestation d'un personnage, promis donc à la prison, préfiguré par son enfermement dans un ascenseur qui l'amène vers le bas comme il l'emmène vers sa déchéance. Donc toutes ces aspérités techniques sont plus efficaces et, il faut le dire, moins putassières que chez Dupontel.
Vous êtes ruiné. C'était votre plan, n'est-ce pas? Vous me retrouverez sur votre route, Gustave. Je cherche quelqu'un pour un travail.
Sur qui vous voulez enquêter?
Un ancien banquier, un député de l'Alliance démocratique et un journaliste célèbre. Je suis prête à tout. Je veux tout savoir de Joubert.
Nous sommes victimes d'un complot.
Un complot? Mais de qui?
Bref, c'est l'inverse d'une catastrophe comme Eiffel, sortie l'année dernière dans le registre que l'on pourrait nommer film d'époque en costume. Alors ça rappelle par contre, dans son ton aventureux et parfois pulp, le très agréable et virevoltant Bon Voyage de Rapneau, et jusque dans l'excellente exploitation de son casting. Alors, il y a Léa Drucker qui est vraiment étonnante, Olivier Gourmier qui est détestable à souhait, Alice Izaz, elle, confirme le fait que c'est probablement l'une de nos plus grandes stars en devenir, et Poulvord arrive à sortir de son registre, malheureusement parfois ampoulé, pour faire un personnage particulièrement détestable, mais surtout complètement ambigu. Et bien sûr, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, Cornillac joue Monsieur Dupré, le chauffeur et valet de la maison qui voit tous ses malheurs arriver et qui va participer au changement de ce climat. Tout ce qu'on peut dire en conclusion, c'est tout simplement ce qu'on souhaite, un gros succès à Couleur de l'incendie, tout simplement parce que ça fait plaisir de voir un film populaire, j'allais presque dire à l'ancienne, c'est pour ça que j'ai parlé de Jean-Paul Rapneau, parce que c'est assez rare de nos jours, un vrai beau film d'artisan, amusant, divertissant, à la fois dramatique, qui se moque pas du spectateur et qui sait reléché jusque dans les moindres petits recoins.
Et bien voilà, ça fait déjà 2 films à aller voir. On verra bien si Couleur de l'incendie gagne autant de César que ne l'avait fait Au revoir là-haut, puisque tu as comparé les 2 films évidemment, puisqu'ils sont tous deux des adaptations d'un roman de Pierre Lemaître. Qui sont les colleurs, colleuses qui laissent des slogans contre le sexisme dans les rues? La réponse est dans Riposte féministe.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Choisir de traiter d'un sujet qui surgit du quotidien, c'est ce qu'ont choisi les réalisateurs Marie Pérennes et Simon Depardon, ce dernier étant le fils de l'illustre Raymond Depardon. Comme lui, il prend la caméra pour suivre non pas les grands événements, mais les petits. Cela commence par des inscriptions vues sur les murs en sortant de chez soi, des inscriptions féministes dénonçant les violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes ou même la société toute dévouée au patriarcat. Alors l'idée est ensuite de rencontrer ces personnes qui sortent la nuit avec leurs bombes de peinture, leurs banderoles et leurs cols pour poser dans la ville des messages de soutien aux victimes ou des slogans contre les féminicides. En rencontrant les militantes de Paris, les réalisateurs décident que ça ne suffit pas, qu'il faut aussi aller voir ailleurs, puisque ces slogans féministes, eh bien, on les retrouve partout, hein, dans les grandes villes, mais aussi dans le Forez, dans la Garrigue héraultaise, à Brest ou encore à Compiègne. Le documentaire Riposte féministe va naître ainsi, une collection de rencontres avec des femmes, souvent jeunes, qui racontent comment elles en sont venues à placer des slogans dans la ville. Alors certaines sont féministes de longue date, d'autres n'ont jamais milité, mais toutes se rejoignent pour faire bouger les choses. Alors il ressort que ces femmes sont plutôt jeunes, hein, cela va contre l'idée d'une jeunesse dépolitisée, et c'est seulement que les combats ont peut-être changé en quelques années. On apprend aussi que l'organisation de ces collectifs est horizontale, ainsi il n'y a pas de chef, ainsi bien que chacun peut proposer des actions, des collages, des slogans, mais le collage aussi n'est pas leur seule activité. Elles sont capables aussi de soutenir tout simplement les victimes d'agressions sexistes en organisant des marches blanches ou des manifestations. Les deux réalisateurs, produits par la même boîte de production que Raymond Depardon, Palmeret et Désert, accompagnent formellement leur sujet avec une caméra qui n'est pas sans cesse en mouvement. La fixité l'emporte. On prend le temps de savoir où l'on se trouve puisqu'on voyage un peu à travers la France et avec qui on se trouve. Il n'y a aucune intervention des réalisateurs qui reste en retrait, et là encore c'est comme dans les films, j'ai presque envie de dire, de Raymond Depardon. Ce qu'ont voulu faire également les réalisateurs, et ils vont nous en parler maintenant, c'est laisser une trace de ce mouvement dans la production cinématographique du pays. On écoute Marie Pérennes et Simon Depardon, les réalisateurs de Riposte féministe.
Je m'étais fait agresser et on m'a demandé comment j'étais habillée alors que j'avais 16 ans et que la personne avait 50 ans. Si même les adultes qui sont censés te protéger, ils ont un doute sur toi, comment tu veux, à un moment donné, avoir confiance dans le système ?
Nous, on a voulu s'emparer de ce sujet, des nouveaux féminismes, de cette envie d'aller manifester dans la rue un mécontentement, parce que je crois qu'on est une génération assez touchée par ces nouveaux, voilà, ces nouvelles façons de militer. On a 10 ans de plus que nos protagonistes à peu près, et en fait on a croisé la route de quelques collectifs assez tôt. Nous, on vit à Paris, et à Paris il y en avait un petit peu partout, des collages, et c'est vrai qu'un soir on est rentré chez nous et on en a vu un tout frais en bas de chez nous, et ça nous a donné envie de mettre un visage un petit peu sur ces mots, sur ces slogans qui sont très forts. Et très vite Marie a commencé à les contacter, on les a rencontrés et on s'est rendu compte qu'il y avait une forme de presque de virtuosité dans la parole politique très jeune, avec une syntaxe, une façon de s'exprimer très très convaincante. Et comme voilà, on aime bien le documentaire direct, on s'est dit qu'on devrait faire un film documentaire sur cette beauté du politique chez la jeunesse et notamment chez les féministes. Donc on est parti dans 10 villes en France pour les rencontrer.
Vous vous attachez pas donc à ce groupe que vous auriez pu suivre un seul groupe, mais vous êtes attaché donc à plusieurs groupes dans plusieurs villes et des villes en plus. Bon, vous les nommez, donc voilà, on peut les identifier. Ce sont des grandes villes et des villes moyennes. Marie Pérennes.
Dès qu'on a rencontré ces collectifs, je crois que c'était assez évident pour nous qu'on ne voulait pas du tout rester qu'à Paris, mais justement montrer qu'il y a un maillage territorial énorme. Alors il y a près de 200 groupes en fait partout en France, nous on en a rencontré 10, et donc c'était important pour nous d'aller à la fois dans des très grandes villes, hein, Paris, Lyon, Marseille, mais aussi dans des villes plutôt moyennes, plutôt un peu oubliées parfois de la carte, Amiens, Brest, Compiègne, et puis des villages presque, hein. Donc il y a Gignac dans la région de Montpellier et Montbrison notamment, qui est en plein milieu du Forez vers Saint-Étienne. Et l'idée, c'était de montrer qu'en fait, derrière le récit individuel de toutes les protagonistes du film, il y a une histoire collective qui s'écrit d'un féminisme contemporain, d'un féminisme 2.0 d'une certaine façon, et qu'on documente pas assez, qu'on archive pas assez. C'est-à-dire qu'il est, on trouvait qu'il y avait une parole assez oubliée dans beaucoup de médias, ou en tout cas que leur parole n'était pas assez reprise. Et nous, on s'est dit, avec notre productrice, on va faire un film où on va leur donner la parole. Comme ça, on ne pourra pas dire que ce mouvement n'a pas existé.
Ça faisait longtemps, je pense, que j'étais féministe, depuis au moins le CP, depuis qu'on dit que le masculin l'emporte sur le féminin.
Alors, ce qui est frappant aussi, c'est, vous en parliez tout à l'heure, donc féminisme contemporain, et puis la jeunesse, c'est assez criant en fait à l'image. Simon Depardon.
On s'est appliqué justement à effectivement filmer divers féminismes, mais on souhaitait quand même montrer la jeunesse. Il n'y a pas que des jeunes dans le film, mais elles ont majoritairement entre 18 et 25 ans, on dirait à peu près. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un féminisme qui reprend aussi d'autres luttes, l'antiracisme, l'écologie, et donc on sent bien aussi une génération qui, ensemble, a appris à faire de la politique différemment. Je ne suis pas sûr qu'elles votent toutes, mais en tout cas, elles vont dans la rue, elles participent d'une certaine façon à la prise de conscience collective, au débat public, en affichant des messages directement sur les murs. Et ça, ça nous a beaucoup marqué parce qu'effectivement, on dit souvent que la jeunesse, elle est apathique, qu'elle s'intéresse moins à la politique. Et nous, on a vu tout le contraire.
Je vais coller ça ici parce que je sais que les gens le verront et c'est juste s'imposer en fait. Et j'adore cette idée. Sur un mur, j'ai vu « Je te crois », ça m'a bouleversée parce que c'est ce qu'on oublie de dire aux victimes.
Donc on est produit par une société de production qui s'appelle Palmeret et Désert et dont l'histoire est faite de films citoyens, de films qui donnent la parole aux citoyens, aux citoyennes, à des gens qu'on entend assez peu, et avec cette idée qu'il faut la même exigence dans un film documentaire et dans un film documentaire de cinéma évidemment encore plus. Quand on s'adresse à des personnes du quotidien, à des personnes de la vraie vie, alors dans les films de Palmeret et Désert, ça peut être des paysans, à des personnes qui font des séjours en hôpitaux psychiatriques, à des juges, etc. Et ces personnes-là, il faut les filmer avec la même exigence de son et d'image que des grandes actrices et des grands acteurs d'Hollywood. Et en fait, nous, on a vraiment voulu faire un film de cinéma pour ça, parce qu'en fait, à partir du moment où on met cette exigence-là à l'image et où on filme les gens au mieux, et ben en fait, on les écoute.
Ma fille Manon a été assassinée de 17 coups de couteau par son ex-petite amie. Aujourd'hui, nous ne vivons plus, on survit.
Moi, j'ai pas envie de rentrer dans un rapport de force dans lequel on va dominer l'autre par la violence psychique ou physique.
Cassez-vous ! Cassez-vous !
C'est une expression de la colère qui est hyper nécessaire.
Ils ont quand même accepté ta plainte ?
Ils ont accepté, mais ils m'ont dit faites en sorte que ça ne vous arrive plus.
C'était Marie Pérennes et Simon Depardon, les deux réalisateurs de Riposte féministe documentaire en salle depuis le 9 novembre. Présenté hors compétition à Cannes, avec Mascarade, Nicolas Bedos tourne en dérision Le Monde cruel de l'argent roi.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
J'ai pensé à vous un jour, ce soir.
À moi? Mais on se connaît pas.
C'est peut-être pour ça.
Adrien, interprété par le toujours impeccable Pierre Niney, est un gigolo qui vit avec Martha, une actrice recluse, dans sa villa de la Côte d'Azur. Il ne l'aime pas et il s'ennuie, martyrisé par la comédienne qui se plaît à l'humilier. Lorsque Adrien rencontre Margot, une jeune femme assez déséquilibrée mais extrêmement séduisante, qui elle aussi use de ses charmes pour séduire de vieilles personnes fortunées, c'est le coup de foudre. Ils vont alors tenter de monter ensemble une escroquerie ambitieuse, mais l'amour n'est-elle pas elle-même la plus grande des arnaques ?
On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple.
Moi je suis heureux.
Bah, tant mieux, il t'en faut peu. Bon allez, il est tard, faut que tu passes.
Et pourquoi ?
Elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs.
Je veux qu'on habite ensemble, comme un vrai couple.
Je t'ai observé avec les mecs, faut que tu rencontres le bon profil.
La terrasse s'étend sur 360 degrés.
Waouh. C'est la plus belle place de le monde.
Pour son quatrième film, Nicolas Bedos, trop impatient de faire du cinéma enlevé, flamboyant, nous assène un film pompeux. Les scènes défilent à une vitesse trépidante, voire hystérique, et à mon avis, il n'aimerait pas cet adjectif. Il faut remplir le vide à tout prix, tenter de mettre dans chaque dialogue des punchlines lourdins et en faire un enchaînement d'aphorismes qui ressent le livre que Beck BD écrivait dans les années 2000, et puis accompagner tout cela d'un air de piano qui ne s'arrête jamais. Il faut que ce soit charmant, sautillant, alors qu'en fait c'est juste agaçant. D'ailleurs, on n'en peut plus du cinéma français accompagné par ce petit air de piano, tout comme on n'en peut plus des plans finaux avec des regards caméra. Je vous laisse deviner comment se termine Mascarade.
Mais tu
types que tu fréquentes. Ils veulent juste passer du bon temps à l'hôtel, mais le soir, ils rentrent dîner chez Bobo, non?
Je suis marié, vous savez.
Tu m'en fous. Faudrait qu'on tue Bobo. Et toi?
Ça me donnera rien. Je suis pas amoureuse.
Ce serait ça.
Mais il est où, cette pute?
Ce petit merdeux, il la tenait.
Je partirais avec elle si elle avait ton âge.
Mais il se trouve qu'en plus, elle est plus jeune que toi.
C'est le mariage que tu vises, oui ou non?
C'est le divorce.
Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade.
Nicolas Bedos se sent dépassé par l'évolution de ce monde qui contemple d'en haut. Les femmes semblent lui faire peur depuis qu'elles ne se laissent plus harceler. Alors, il les fantasme dans ses films en héroïne manipulatrice et nymphomane. Le personnage de Margot, fort bien interprété par Marine Wacht, semble tout droit sorti des années 80. Vous savez, cette époque bénie d'avant MeToo, où les femmes étaient belles et forcément folles de cul et manipulatrices, et où les hommes étaient leurs victimes. Il y a un peu de Béatrice Dalle dans 37.2 le matin dans ce personnage, un peu de l'année des méduses, un peu de l'été meurtrier. En bref, rien de nouveau sous le soleil. On aimerait en 2022 voir autre chose au cinéma que des personnages de gorgones vengeresses, échevelés et peu habillés. Il est loin le temps des Monsieur et Madame Adelman, le premier film de Nicolas Bedos, coécrit avec sa complice de l'époque, Doria Tillier, dans lequel le personnage féminin s'avérait complexe, attachant, drôle. Ici, le personnage féminin central, ainsi que toutes les autres femmes d'ailleurs du film, est juste effrayant. Dans le monde de Nicolas Bedos, eh bien, ce sont les femmes qui droguent les hommes pour les violer. Dans le monde de Nicolas Bedos, les femmes se frappent elles-mêmes pour faire accuser les hommes et obtenir une pension alimentaire afin de vivre sans rien branler, enfin plus ou moins. Et dans le monde de Nicolas Bedos, eh bien, lorsque les femmes sont battues par leurs mecs, c'est parce qu'elles sont, je cite, « trop belles » et que ça rend les hommes fous. En bref, beaucoup de représentations très problématiques que Nicolas Bedos brandit comme autant d'étendards de son insolence, pensant qu'il est à lui seul le dernier rempart du politiquement incorrect, alors qu'il représente malheureusement ce qui se fait de plus réac en termes de cinéma, sans pour autant que l'on renie les évidentes qualités de son film, à savoir un vrai amour des beaux plans et un très beau scénario. Mais l'ensemble se veut brillant, sarcastique, alors que Mascarade est juste un film prétentieux avec un gros budget. C'est dans ses films précédents, Nicolas Bedos faisait preuve d'une poésie, d'un humour incorrect, mais toujours chargé d'une certaine humanité. On a à présent l'impression d'assister à un cinéma réac, vulgaire, misanthrope, écrit par un homme reclus dans sa tour d'ivoire et absolument terrorisé de constater que le monde change autour de lui. Clairement, Nicolas Bedos nous ment, il n'a pas 43 ans, mais 75, et ce film est le sursaut désespéré d'un boomer qui essaye de se rattacher à son ancien monde. Au moins, en tout cas, s'il y a un endroit où Bedos ne nous ment pas, c'est sur la teneur de son film, puisqu'elle est affichée clairement dans le titre. C'est bien une vaste mascarade.
Faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être.
C'était donc pour ça.
Mascarade de Nicolas Bedos est en salle depuis le 9 novembre.
Alors?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, alors avec deux interviews, Guillaume.
Alors oui, on commence par le défi de Noël de Florent Essic. Et puis ensuite, Balle perdue 2 de Guillaume Pierret.
Et puis toi, Manu, tu auras deux films.
Deux films, donc le nouveau James Gray, Armageddon Time. Et puis, à nouveau, je vais vous parler un peu de l'ETA avec Black is Belza 2. J'avais déjà chroniqué le premier, qui est donc un film d'animation basque.
Voilà, encore les Basques. À la semaine prochaine.
Les mains en l'air. Oh. Si ça peut te faire plaisir. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me chantiez une chanson.
Oh, mais tu rigoles.
Catharinette ta belle, là, par exemple. Vous l'aimez?
Ah oui. On l'aime bien, celle-là, ça tombe bien. Et t'avais pas besoin de sortir ton arme.
Allez-y.
Et range ton revolver, on risque de chanter faux.
Je compte jusqu'à 3. 1. 2.
Tu n'as que 16 ans et froid comme tu affoles déjà tous les hommes.
Je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Vous me gâchez un peu mon plaisir.
Ça va finir cette plaisanterie.
Attends, on peut faire mieux.
est-ce ton œil si doux qui les mine, ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous? Oh, Catherine, ta belle tchitch, écoute, l'amour t'appelle tchitch. Pourquoi dire non maintenant? Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah, plus tard quand tu seras vieux.
This is Cinerama.